Bonjour, soyez les bienvenus sur le bouquet de l'océan indien et sur Dunia Web avec nos partenaires BRTV, sans oublier notre radio malgache RNA. Nous accueillons aujourd'hui Madame Rama Bahamoud El Madid.
C'est dur à dire, hein?
Oui.
Je vais le dire à l'arabe alors.
Voilà, allez-y.
Rahma Ben Hamoud El Madani.
Enchanté.
Rama, en fait, Rama Ben Hamoud El Madani pour la France.
Voilà. Voilà, vous êtes écrivain, vous êtes aussi productrice, réalisatrice marocaine, vous êtes née en Algérie et d'une famille marocaine.
Et je suis française.
Aussi française.
Bah oui. Tu l'as pas dit, alors je te reprends.
Alors, vous avez quitté l'Algérie avec votre famille pour la France et à 6 ans, vous êtes venu en France. Mmh. Dans la région bordelaise, ouais. Quelle ville exactement?
C'est simple, c'est au milieu des vignes. Voilà.
C'est très différent de l'Algérie. Hein,
non, parce que l'Algérie aussi, j'étais dans un village au milieu des vignes.
D'accord.
Voilà. C'est pas la même, effectivement, c'était vallonné en Algérie, alors que dans le Médoc, donc c'est à 20 km à peu près de Bordeaux.
D'accord.
C'est sur la route. On dit sur la route des vins en direction de Soulac, tout ça. Bon, c'est un joli coin aussi.
D'accord, ouais. Avec du soleil, j'imagine.
Avec du soleil, ouais.
Alors, j'imagine des beaux moments, de souvenirs d'enfance agréables. Alors, vous avez réalisé des études en sciences du langage, des lettres, mais aussi vous avez fait aussi des études au cinéma.
Ouais.
Voilà. Vous avez aussi fréquenté la radiophonie. Petite expérience, grande expérience.
C'est une belle expérience, oui. J'ai fait ça, je te disais tout à l'heure hors antenne, j'ai fait ça pour vaincre...
La timidité?
Non, oui, mais ça, je ne l'ai toujours pas vaincu. C'est mal barré. Non, pour vaincre la théorie, le côté théorique de l'université, où c'était très sérieux, ça m'enfermait un peu. Mm-hmm. Et j'avais besoin plus de terrain, donc je faisais... des directs, je faisais de l'animation musicale, je faisais de la politique, voilà, des débats politiques, j'allais sur le terrain pour filmer les manifestations.
Ah, donc ça. Vous étiez un peu engagé aussi alors, dans ces radios?
J'étais dans une radio militante de gauche. Ouais.
D'accord. Mm-hmm. Après cette aventure radiophonique, vous êtes lancé aussi dans le cinéma. Vous avez réalisé vos propres réalisations, créé votre structure. Ça, c'est à Lille.
Voilà, parce que bon, la vie, hein, de Bordeaux, j'ai dû m'envoler jusqu'à Lille.
Mmh. Et pourquoi?
Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a été muté à Lille tout seul.
Donc, pas pour des raisons professionnelles?
Non, c'était D'accord. pour des raisons, on va dire, privées. Mmh. Et j'ai continué mes études à Lille d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré une dame qui était en filmologie.
D'accord.
Professeur de filmologie et puis qui m'a passé le virus, on va dire, D'accord. du cinéma.
Wow.
Bah oui.
Je croyais qu'on l'attrapait en regardant la télé, mais non.
Non.
Ouais, en étant au cinéma. Alors, vous continuez vos réalisations en coproduction avec des structures comme les frères Dardenne.
Dardenne. Alors là, tu vas te prendre des coups sur les doigts, là.
Ouais, parce excusez-moi, c'est... Un peu lourd de la
langue. C'est quand même pas rien, oui. Donc à Lille, pour l'histoire, c'est que j'ai commencé à écrire un scénario, un gros pavé, mm-hmm. quand j'étais étudiante, en lettres, pour cette dame en filmologie, je voulais qu'elle le réalise.
D'accord.
Donc voilà, j'étais très prétentieuse quand même, hein. J'étais toute jeune.
Pourquoi ne pas aller vers l'avant quand on a la possibilité?
Et en fait, elle m'a mise plutôt en contact avec des réalisateurs de la région.
Qui n'étaient pas encore connus?
Qui avaient déjà fait des choses, mais qu'elle le coachait un peu comme ça.
Qui n'étaient pas encore connus.
Qui n'étaient pas encore connus, voilà.
Dans
cette section de filmologie. Mm-hmm. Et je les ai rencontrés et en fait, j'ai compris qu'il fallait que ce soit moi qui les réalise.
D'accord.
C'est comme ça, c'est venu, vraiment pur hasard. Et c'était au moment des premières émeutes, c'était au moment de, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Khaled-Kelkal.
Oui.
Voilà, donc c'est ça en fait qui moi m'a vraiment donné envie de réfléchir sur ce qui se passe en France. Et donc j'ai écrit un gros scénario sur justement l'immigration en France.
D'accord.
Voilà, donc j'ai commencé, mais je suis loin d'avoir fini ce que j'ai écrit. Hein. J'ai à peine commencé.
D'accord. Ouais. Alors, vous avez...
Les frères Dardenne, donc c'est, oui. pour parler d'eux, c'est... Donc j'ai commencé mon premier film, ça a été un flop. Le premier, hein, c'était un flop, mais par choix. J'ai eu un producteur, j'ai tout eu sans avoir fait d'études, comme quoi. Hein. Et j'ai choisi de m'arrêter en cours de route parce que ce que j'en avais retiré ne me convenait pas. Voilà. Donc j'ai fait un petit truc, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai quitté le producteur, j'ai rendu l'argent, j'ai pas fait.
D'accord.
Je voulais pas me tromper, donc déjà.
Donc vous êtes perfectionniste alors.
Non, j'ai eu très peur de raconter ce dont je n'étais pas convaincue.
D'accord,
surtout.
Okay.
Voilà. Et par la suite, j'ai fait un autre film dans un collège, parce que j'ai travaillé dans un collège en milieu, enfin, où il y avait une radio en milieu scolaire.
Mmh. Votre parcours radiophonique.
Voilà. Et donc, par la suite, j'ai rencontré les frères Darnène avec un film qui s'appelle Du côté de chez soi.
D'accord.
Voilà,
c'est l'un de vos...
Et ça a été une belle aventure.
Voilà, c'est l'un de vos premiers documentaires qui se passe à Belleville.
Celui-là, Du côté de chez soi, non. Du côté de chez soi, c'est celui-là sur l'histoire de mes parents entre l'Algérie et le Maroc.
Ah oui,
sur le conflit algéro-marocain.
Voilà. Et donc moi je parlais plutôt de Je suis chez moi.
Alors, Je suis chez moi, c'est ça, c'est arrivé longtemps après. Mm-hmm. Parce que Du côté de chez soi c'était en 2003. Et l'autre c'était sur les sans-papiers.
D'accord.
À Belleville.
Ensuite...
Et sur le réseau Éducation sans frontières, ça c'était en 2006.
D'accord.
Donc 3 ans après.
Si on regarde bien la situation, c'est à peu près le même, mais ça n'a rien changé. Hein. Ou ça s'est déplacé un peu
plus. Non, en fait, oui, ça c'est pas que ça a changé, parce que moi, quand je filmais, c'était sur l'ère de Sarkozy, hein, avec la circulaire, où tout le monde avait espéré être régularisé.
Et ça n'a pas été fait.
Ça a été...
À moitié fait.
C'était un truc un peu compliqué, mais en tout cas, ça a permis aux familles sans papier de sortir de l'ombre, c'est ce que je raconte dans le film, et puis d'être soutenues, d'être parrainées par des familles françaises. Et puis de voir qu'ils pouvaient se battre pour leurs droits et de ne pas rester cachés. Il y en a qui restaient cachés depuis des années et des années, quoi. Mmh. Alors aujourd'hui, là, on a un autre problème avec le problème des réfugiés qui se rajoute au problème des sans-papiers, etc. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est encore un autre problème.
Encore un autre problème. Alors, vous avez réalisé aussi un autre documentaire, je suis sur la route, d'une femme taximan.
Ouais.
On peut dire taxi-woman, non? Plutôt.
On dit une femme taxi.
Taxi, oui. Bon. Voilà. Ensuite, Plus fort que tout le reste, un court-métrage science suisse. Vous pouvez me parler
fiction.
Un peu
Alors,
de cette fiction, puisque c'est une première aussi, non?
J'ai fait les deux en même temps. Non, c'est pas une première. C'est-à-dire que j'ai commencé par une installation vidéo, dont je parlais tout à l'heure. Avec un comédien, etc. Et c'est vrai que le...
Alors, on va rappeler ce petit coup pour coup qu'on a eu avant de débuter notre interview, c'est-à-dire que vous m'avez expliqué qu'il y avait 3 écrans.
Oui, alors ça, c'était un petit travail que j'avais fait, et ça s'appelle une installation vidéo. Donc
d'accord.
Là, c'est entre le cinéma, mais c'est plutôt les arts plastiques.
D'accord.
Et c'est pour... En fait, c'est le vecteur, donc effectivement, c'était des écrans télé. Avec un comédien. Alors le sujet c'était la malbouffe ou l'alimentation.
Donc ça concerne pas ce projet-là.
Non, mais le travail avec les comédiens, je veux dire même avant d'écrire ou le travail de la direction d'acteurs ou travail avec les acteurs, c'est quelque chose qui m'est cher. Même D'accord. quand j'étais jeune au collège, j'avais déjà écrit au collège une espèce de petite pièce de théâtre. Donc c'est vraiment un travail avec les comédiens, même si après j'ai fait, c'était plutôt mon côté un peu, recherche documentaire, mais le jeu d'acteur, j'ai jamais laissé ça de côté, comme l'écriture d'ailleurs. Hein. Donc le plus fort que tout le reste, c'est un travail avec des comédiens, avec une première partie très théâtralisée,
d'accord.
Et la deuxième partie, c'est à l'extérieur. Je suis revenue, en fait, j'ai pas oublié ce côté théâtral.
Alors, un autre documentaire, on en a parlé, c'est Du côté de chez soi.
Ça c'est Du côté de chez soi.
Voilà, pas dire chez moi.
Non.
Et donc c'est un documentaire intimiste sur vos parents qu'on a indiqué tout à l'heure, entre la France, le Maroc et l'Algérie.
Donc c'est celui-là qui a été produit par les frères Dardenne.
D'accord.
Coproduit, parce que je l'ai produit. Mm-hmm. Ouais, eux l'ont coproduit.
D'accord.
Ouais. Et c'est sur l'histoire, en fait, oui, de mes parents, mais pas que. C'est-à-dire que ça me permettait mm-hmm. de parler d'un sujet qui était assez tabou, quand même, avec, déjà même avec mes parents, avec... sur cette espèce de conflit larvé entre l'Algérie et le Maroc.
D'accord.
Voilà, un conflit qui dure depuis quand Encore. Même voilà, plus de 40 ans et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et bon, comme moi je suis née en Algérie de parents marocains, c'est vraiment quelque chose que, voilà, qui est difficile pour nous quand on est entre deux pays. C'est compliqué.
Et que deux pays qu'on aime beaucoup, j'imagine.
Voilà, en plus.
En plus. Alors vous écrivez aussi deux longs métrages. Alors. Alors, je ne sais pas si elles sont terminées ou pas. C'est Prise de tête et La chute de Chamlang. Bon, j'en parle hein, parce que ouais. c'est ce que c'est mes notes. Ouais. Comme ça, vous allez nous expliquer un peu.
Alors, Prise de tête, c'est en, on va dire que c'est en écriture. J'ai écrit de quoi faire un court métrage.
D'accord.
Ben, ça se passe en Algérie et en France. J'ai pas terminé.
D'accord.
Voilà, c'est en bon. Voilà, j'en parle pas parce que c'est pas vraiment fini l'écriture. Et l'autre, La chute de Lan Chun. Alors, maintenant, je l'ai appelé Meli Chang.
D'accord.
Voilà, c'est plus court à dire. Et puis voilà.
Meli Chang.
Meli Chang, qui veut dire belle ville en D'accord. chinois. Et puis, j'ai rajouté Ou les mirages de Moulay. Parce que ça se passe entre la Chine.
Donc, vous êtes parti là-bas pour.
Pas encore.
Pas encore.
Mais j'ai écrit.
D'accord.
Voilà, parce que voilà, je me suis renseignée. Et puis j'habite à Belleville. Donc, voilà. Donc, c'est entre la Chine du Nord, Belleville et le désert.
D'accord. Toujours le désert.
Toujours le désert.
En 2010, vous réalisez Tagna Huitude.
Ah, c'est des titres qui sont durs à dire. Tagna Huitude, c'est un film sur la musique gnawa.
Mm-hmm. Alors, elle est d'où exactement cette musique?
Alors, déjà, Tagna Huit, c'est mm-hmm. un mot berbère.
D'accord.
Qui veut dire gnawa, qui veut dire la culture gnawa. Et donc, j'ai fait un jeu de mots avec... attitude, tagnawitude, comme on dirait négritude, voilà.
Sur l'attitude.
Voilà. Voilà. Mm-hmm. Parce que j'ai constaté en faisant le film qu'il y avait un engouement au Maghreb et même en France vis-à-vis de cette musique qui est roots, ce qu'on dit musique de racine, musique mm-hmm. Ancestrale, de la... alors, c'est les descendants d'esclaves au Maghreb.
D'accord.
Voilà, c'est ça les gnawa.
D'accord. Donc on peut translater un peu comme la musique le Séga à l'île de la Réunion ou le Malvé à l'île de la Réunion par rapport aux esclaves, mm-hmm. aux Antilles aussi par rapport voilà. Aux esclaves qui étaient là-bas. Oui, mais on peut aussi, comme c'est un peu de mélange de la musique d'esclaves mais aussi
de religion. Fait. Ouais.
Nous, chez nous, peut-être on peut parler du Touareg. Vous connaissez le Touareg?
Non, pas du tout. Non. Mais j'aimerais bien. Voilà,
on aura l'occasion de vous faire découvrir. Alors, on va revenir sur votre livre. Votre livre s'appelle « Sol ancré dans le sol », sorti chez l'édition Sélacante. Mmh. Quand j'ai commencé à lire le livre, en quelques lignes, j'ai vu une femme déçue par l'amour. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est votre premier livre?
Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un livre... En fait, c'est des textes que j'ai écrits sur à peu près une période de 2 ans, mm-hmm. Qui ont été édités. Voilà. Mais j'ai d'autres textes qui n'ont pas encore été édités. Donc, je dirais que c'est, oui, là, c'est mon premier livre qui est sorti. Quoi.
D'accord. Voilà. Alors, comme vous êtes une femme, les hommes peuvent se dire... Alors, c'est peut-être une autobiographie.
Ouais, ils peuvent se le dire. Ils ont le droit. Après, ça raconte l'histoire d'un homme et d'une femme.
D'accord.
Ça peut Donc, il n'y a pas... Qui, voilà. Ça peut être, on est tous, je pense qu'on a tous eu, malheureusement, des déceptions amoureuses ou des rencontres. Voilà, c'est l'histoire d'un couple, mais pas que, mm-hmm. parce que ça, c'est dans la première partie.
D'accord.
Ça, c'est, je pose, voilà. Je
la raconte, base.
Voilà, mm-hmm. je raconte l'histoire d'une femme après une rupture amoureuse, un échange entre elle et lui, parce qu'en plus, il n'y a pas de prénom, je sais pas si t'as remarqué.
Oui, c'est vrai.
Donc ça peut être n'importe qui, en fait. Elle et lui, et après, dans la deuxième partie, ça c'est donc seul, et dans la deuxième partie c'est ancré, donc ça c'est une forme de résistance, mm-hmm. comment est-ce qu'elle arrive justement
à s'en sortir,
à passer au-delà de cette rupture amoureuse, et puis dans la troisième partie c'est tout ce qui est un peu engagé, C'est-à-dire, la période où j'ai écrit, en fait, où j'ai commencé à écrire, il se passait des choses avec les attentats, avec ce qui se passait après à la République, au même moment d'ailleurs, hein, avec l'état d'urgence, c'était compliqué parce qu'on voulait justement pas que les gens fassent ces nuits debout. Il y avait aussi les manifestations pour soutenir Gaza qui se faisait bombarder.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, tous ces textes, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc, je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus. Et voilà, donc quand ça me touche, j'écris. Et c'est des textes qui ont été rassemblés. Après, il a fallu que je trouve un fil conducteur.
D'accord.
Et le fil conducteur, c'est une histoire amoureuse. Voilà.
Alors, votre personnage est européenne. Pourquoi être européen alors que vous êtes, on va dire, maghrébine, algérienne, marocaine, africaine, on va dire?
Non, je dirais qu'il n'y a pas... Alors, ah, c'est marrant ça.
On pose souvent cette question.
Non, c'est que j'essaie de répondre et je dirais que c'est elle et lui. Mm-hmm. Donc le elle et lui, ça peut être ce qu'on veut, quoi, en fait.
D'accord. Qu'importe l'origine, c'est...
Oui,
c'est,
qu'importe ça... l'origine, je pense que les histoires amoureuses, c'est des histoires amoureuses. Ça, c'est... elle peut être blanche, elle peut être noire, elle peut être... Et d'ailleurs, dans la lecture qu'on a fait le 7 octobre, j'ai une comédienne qui est originaire du Cameroun et une comédienne qui est suisse, en fait, elle est suissesse, franco-suisse. Et puis, il y a Karim qui, lui, est d'origine kabyle, donc algérien. Mais je peux travailler, moi, j'ai, d'ailleurs, ce que je disais, c'est que je peux travailler avec n'importe quelle origine. Moi, je n'ai pas cette espèce de barrière ethnique. Melly Chang, c'est avec des Chinois. Pour écrire, d'ailleurs, j'ai écrit mes textes et après, je les ai fait travailler. J'ai travaillé avec avec des acteurs. Je les ai fait improviser en chinois. Je ne connais pas le chinois. Je suis pas.
C'était un peu difficile, j'imagine.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a pas.
On est à la découverte de la langue, non ?
Non, c'est que quand on écrit quelque chose et que on le donne à l'autre, on sait qu'ils sont en train de traduire à peu près ce qu'on leur a demandé de faire.
D'accord.
Et moi, je leur ai demandé de jouer, d'improviser un peu avant, un peu après, et de jouer mes mots en chinois. Et donc, sincèrement, je n'ai eu aucun problème avec ça. Je pense que quand on est comme ça ouvert au monde et qu'on est artiste, on doit être... on doit être comme ça, parce que sinon, c'est qu'il y a un problème.
Alors,
quoi.
Si j'ai bien compris, vous écrivez des... on va dire...
En français, j'écris en français.
En français, vous donnez à d'autres personnes qui le traduisent d'une autre façon.
Ça pour le film Emily Chang, oui.
Donc ça veut dire que ce que vous avez pensé à l'origine soit différent de ce que vous imaginez.
C'est adapté à la culture, ça peut être adapté... Non, c'est pas différent, juste... Oui, c'est différent dans la mesure où...
Alors, parce qu'ils l'interprètent à leur façon aussi.
Alors, voilà. Oui, mais je les dirige. mais c'est bien ça comme question, parce que ça veut dire qu'en fait, effectivement, le texte est mystérieux.
D'accord.
C'est-à-dire que les mots sont mystérieux. Les mots signifient des choses à eux-mêmes. C'est-à-dire on écrit des choses et après, quand c'est un comédien qui l'interprète, il faut qu'il trouve lui-même ce que cachent les mots, le sous-texte, ce qu'il y a derrière, justement. D'accord. Tout ça.
Alors, c'est un peu votre livre, à dire, parce qu'il cache plein de choses. et là, par exemple, comme vous indiquez, ça aurait pu être un couple jeune africain qui aurait pu se retrouver dans ce monde où on était il y a quelques temps dans les attentats, on ne savait plus où
Exactement.
On était. Donc voilà. Et lorsqu'on ouvre le livre, on voit qu'elle est accompagnée par des photos qui illustrent votre écriture, vos écrits, à vous dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec les photos et les images les photos et
le texte. Alors le texte, moi au départ, quand j'ai proposé ce travail. Assez lacante, il y avait que les textes
D'accord.
que je voulais éditer. Hein. Et c'était... Alors, c'est marrant parce que quand je l'ai envoyé donc, à Mahmoud Sélacante, j'ai glissé des photos, je ne sais pas pourquoi, mais y a, de toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Hein. Donc j'ai glissé des photos comme une espèce de dossier de présentation. Et lui, quand il a vu les photos avec les textes, il m'a dit « mais on va faire les deux, on va les éditer ensemble ». Donc, faudrait peut-être lui poser la question. Je crois qu'il a dû voir le lien, lui, très clairement. Et ce n'était pas les mêmes photos, il n'avait pas autant, il en avait quelques-unes. Et puis ensuite, quand il a fallu construire le livre, je suis allée en chercher d'autres. Et là, par contre, j'ai réfléchi un peu plus aux liens Donc il y a des... c'est vrai que le... donc, déjà le livre va être adapté au cinéma, ça,
d'accord,
c'est évident.
Oui, ça il faut le voilà. dire aussi.
Au théâtre
déjà,
et au cinéma.
Déjà au théâtre, oui.
Mais même dans le théâtre, il y aura des projections derrière. Et en fait, dans le, donc le livre, il y a des flashbacks, il y a des souvenirs.
D'accord.
Donc il y a un échange qui est dans donc la déambulation de la femme dans Paris, hein, puisque ça se passe à Paris. Mm-hmm. Et puis elle a des espèces de réminiscences, des flashbacks, des pensées qui la traversent. Et c'est en lien justement avec les photos.
D'accord. Voilà. Alors, donc aucun lien, mais on peut dire qu'il y a quand même un lien avec les photos elles-mêmes. Il y a une histoire avec les photos et une histoire avec les,
ben, oui. la lecture. Avec le texte, oui. C'est-à-dire qu'on peut, ce que je disais, c'est qu'on peut lire que le texte. On peut après regarder les photos à part et puis faire le lien. Et c'est un ensemble. Ça peut être trois histoires différentes à la rigueur. C'est-à-dire qu'on peut même le texte lui-même. Il y a une comment dire. Il y a une narration, donc on peut le lire d'une manière très linéaire, mais aussi on peut lire les textes les uns pris par rapport aux autres. Enfin oui, on peut parce que c'est comme des poèmes en prose en fait.
D'accord.
Donc c'est des séquences, c'est très voilà, c'est un peu construit comme comme un film où on peut prendre par exemple un extrait et le lire ou le regarder à part.
Alors on a cette femme qui est un peu... Bon, moi j'ai eu l'impression qu'elle était un peu sombre, triste. Pas sombre, mais triste.
Elle se pose des questions
voilà,
en tout cas sur ce qu'elle
attente,
va faire.
Qui en a l'attente d'amour au début de ce livre.
Bah, elle attend son amoureux, elle se demande ce qui lui arrive, quoi.
Voilà, et surtout les coups de téléphone ou les textos pour, voilà, pour savoir
c'est
où
très moderne, parce que oui, il y a beaucoup
pourquoi
de SMS.
Pourquoi pas de Facebook aussi?
Non. Ben non, je ne parle pas de ça. C'est plutôt des SMS, parce que justement, ils communiquent comme ça. Et
Internet n'intervient pas.
Non, c'est plutôt des SMS. Et en fait, justement dans les messages qui s'envoient, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que... alors, est-ce qu'elle est vraiment sombre? Parce qu'elle réfléchit, elle déambule, elle se promène,
oui,
dans Paris. Et puis, des fois, elle dit qu'elle est pas prête à le voir. Elle se demande, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un de très pris, et qu'elle a du mal, qui voyage beaucoup, et qu'elle a du mal à joindre. Et elle se demande à chaque fois s'il va lui répondre, mais il lui répond toujours. Mm-hmm. Il est toujours là, en fait, il est toujours présent, mais il ne le voit pas. Et puis, parfois, quand il est de retour... elle n'a pas forcément envie de le voir. Donc c'est très... c'est pas très sombre, en fait. C'est pas sombre, c'est juste... je pense que ça raconte aussi le lien qui se crée entre un homme et une femme, qui dépend de qui, quand il y a une relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe.
c'est la mise en place où la position se trouve... Voilà.
Vous
parlez de Paris tout à l'heure. Paris et ses quartiers, c'est décrit dans le livre aussi, non?
Ouais, Paris et le quartier de Belleville, ouais, le quartier du 20e.
Toujours Belleville,
20e,
hein. Ouais. Elle a une place importante dans votre vie, ce quartier.
Ouais, c'est un quartier qui a changé déjà, mm-hmm. qui a beaucoup changé depuis que j'y suis. Moi, j'y vis depuis 2005. Je trouve que c'est un quartier... D'abord, alors, pour l'histoire, c'est vrai que c'est symboliquement, c'est le quartier où depuis toujours, les premiers arrivants s'installent. Mmh. Quand on arrive à Paris, dans le temps déjà, les gens qui étaient, on va dire pas très... Enfin,
riche.
C'est plutôt, pas très riche, c'est le quartier un peu plutôt...
Populaire.
Venez s'installer à Belleville. Donc c'est une tradition. Et moi, ce que j'aime bien dans ce quartier, c'est que... déjà, c'est vivant, ça me rappelle en même temps le Maghreb, ça me rappelle l'Afrique... c'est un peu dépaysant parce qu'il y a la Chine, il y a les juifs tunisiens, il y a une synagogue, il y a des églises, il y a plusieurs mosquées. Mm-hmm. Et malgré toutes les discussions qu'il peut y avoir en France autour de l'immigration, autour des problèmes communautaires, c'est un quartier où les choses fonctionnent. Quoi. Ça fonctionne.
Ça passe très bien. Même
c'est une tour de Babel. Voilà. C'est ça qui m'intéresse.
Ouais. Alors, ma question, c'est, vous aimez Paris?
Oui, moi, j'aime bien Paris, oui.
Mm-hmm. Et alors, pourquoi puisque vous avez vécu
j'ai vécu
Lille.
Oui, beaucoup à Bordeaux.
On aurait pu transférer un peu cette histoire à Lille, à Bordeaux, ça n'aurait pas fonctionné?
Non.
Ah.
Non, parce que alors Bordeaux, c'est pas une ville cosmopolite déjà, c'est plutôt une ville espagnole.
Mm-hmm.
et sénégalaise. Il y a un peu une communauté un peu sénégalaise. Les Maghrébins, les Marocains sont plutôt dans les vignes, d'ailleurs, plutôt dans le truc un peu agricole. C'est pas. Non, c'est. Moi, je. Bon, enfin, en tout cas, peut-être que ça vient de là. Moi, j'ai grandi dans un village où, sincèrement, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Donc, peut-être que c'est un manque aussi de ça. Hein. J'ai retrouvé la même chose à Bruxelles ou à Londres ou même à New York. Ou, mais Paris, c'est, il y a plus de proximité en fait.
D'accord.
Par rapport
en plus,
à.
On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, hein, Paris, à Belleville. C'est de minuit à minuit, c'est toujours la même ambiance.
Ouais, mais là, ça a changé. Là, ça devient un peu plus. Bon, le quartier, on va dire, comme on dit le mot, la boboïse. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais. Mais quand même, ça reste le côté populaire est bien ancré et ça reste encore pour le moment.
Ouais. Alors, dans votre livre, les photos parlent des belles villes, mais parlent aussi d'autres.
Alors, parlent du désert. Il y a beaucoup de photos du désert. Il y a aussi des photos de nature. Parce que la nature...
Et là, c'est le côté provincial.
Le côté bucolique, le côté un peu campagnard.
Alors, on va écouter un titre de Tracy Chapman et puis on revient pour la suite de notre interview sur ce livre que Madame Rema nous fait découvrir ici. Et Tracy Chapman sur Le bouquet de l'océan Indien.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. His body's too old for working. So his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I say somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. Stepped around my shoulder and us hope for better. And maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take a fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before your arm felt nice wrapped around my shoulder. I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight, live and die this way. Live and die this way. Live and die this way.
Sur www.mifm, sur le bouquet de l'océan indien, sans oublier nos partenaires Dunia Web et BRTV, sans oublier Erina. Nous sommes avec Madame
Benamou El-Madani.
El-Madani, ah, excusez-moi. Alors, nous continuons de parler de ce livre que vous venez nous faire découvrir ici, Seul ancré dans le sol, sorti chez l'édition Sélacante. Mais avant de parler de ce livre, on va parler de vous.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, vous nous avez décrit, lors de la biographie que j'ai faite de vous, que j'ai pu avoir, que vous étiez une femme militante, un peu de gauche, on peut dire.
Oh là là, c'est dur de dire de gauche aujourd'hui.
Ouais, je vous comprends, mais de gauche quand même.
Oui, de gauche surtout, oui. Mmh. Je ne sais pas, je pense que... Alors, militante, disons qu'il y a, des choses... Il y a des choses que je défends, il y a des principes que je défends, des idées qui me tiennent à cœur. Mmh. Et puis, il y a comment expliquer ça ? C'est peut-être aussi une éducation, c'est peut-être des choses qu'on m'a transmises et qui aujourd'hui deviennent militants, mais aller vers l'autre, le sens du partage, aider l'autre, le comprendre.
Enfin, c'est un peu la femme qu'on découvre aussi, non ? Dans ce livre.
Ah ! C'est-à-dire que oui, il y a...
Elle perd son amoureux, celle qui l'idolâtrait. Elle perd son amoureux, ouais. Celle qui l'idolâtrait. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire...
Oui, elle va vers la lutte, oui.
Voilà. Ah, mais c'est... Elle s'ouvre vers les autres, elle dit, ben, y a d'autres choses que lui.
Bien sûr, ben, c'est ça, bien sûr. Je dis, bien sûr. Au départ, elle est en rupture amoureuse et puis elle va vers l'autre. Je pense que c'est important d'aller vers les autres, oui. Mm-hmm. Quelle que soit la situation, rupture amoureuse ou pas.
Alors, la place de la femme dans la société africaine. Bon, je dis africaine parce que mm-hmm. l'Afrique, hein, ouais. L'Algérie, etc., etc.
Alors, la place de la femme, c'est un peu... Ça, c'est
En tant que militante, en tant que réalisatrice. Hein.
J'ai jamais vraiment... Enfin, moi, alors, dans l'engagement, je pense que... le sexisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre, comme on peut combattre le racisme, comme on combat toute forme de choses abjectes, et le sexisme en fait partie. Mm-hmm. Après, moi, je suis pas une... comment expliquer ça ?
Féministe, on peut dire ?
Oui, je suis dans le féminisme, ça c'est évident, parce que sinon je ne prendrais pas une caméra pour raconter des histoires de femmes, mm-hmm. parce que c'est vrai que c'est quand même un regard féminin. Mais je ne suis pas dans une... Comment expliquer ça ? Je ne prône pas la séparation des sexes ou la suprématie de la... Vous voyez, de la femme, ou... c'est pas ça.
Le girl power.
Oui, si, je suis pour le girl power. Mais ça dépend comment. Je pars du principe que peut-être que la place de la femme, notamment dans le cinéma, moi, c'est vraiment mon thème aujourd'hui, c'est ça. Mm-hmm. C'est comment, justement, défendre notre travail en tant que femme, parce que j'ai... Au départ, quand j'ai commencé le cinéma, je ne me rendais pas compte du tout, mais vraiment pas du tout, qu'il pouvait y avoir une bataille à mener là-dedans.
D'accord.
Mais absolument pas. Moi, j'étais complètement naïve. C'est-à-dire, je me disais, je vais faire des films qui vont être acceptés tout autant qu'un autre film. Un blanc, homme. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à combattre, là. Et je me suis aperçue au fur et à mesure, notamment quand j'ai voulu passer du documentaire à la fiction, que... on pouvait faire des documentaires, et d'ailleurs, alors que le documentaire, je trouve ça très très difficile par rapport à la fiction, quand même. Parce que c'est vraiment, c'est colossal. C'est un travail de longue haleine, c'est vraiment, on se met en danger. Enfin. Mais j'ai constaté que dans la fiction, il y avait beaucoup d'argent.
D'accord.
Parce que les films de fiction coûtent très très cher.
À cause des moyens mis en avant.
C'est comme ça, on peut faire un film à 2,5 millions, 3 millions, 4 millions. C'est comme si on avait peur de miser sur la tête d'une réalisatrice, quoi. C'est-à-dire D'accord. qu'une femme qui mène un chef d'équipe, qui va faire un film, c'est moins crédible qu'un réalisateur. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Ça va être plutôt... africaine, oui, parce que évidemment. Je suis originaire du Maghreb, et le Maghreb, c'est en Afrique. Donc c'est un thème qui me tient à cœur, ouais.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est ça.
Alors, vous êtes plutôt... Vous êtes algérienne ou marocaine? Alors, vous avez... vous êtes née en Algérie, vous avez d'origine marocaine. Mm-hmm. Vous vous considérez comme...
C'est pas très important, ça. Ce qui est important, au fur et à mesure, ce que j'ai compris dans le cinéma, et c'est peut-être aussi pour ça que je fais ça, c'est que ce qui est important, c'est ce qui nous ressemble. D'accord. Ce qu'on a envie,
là,
ce qu'on est au fond de soi et ce qu'on a envie de dire. Moi, mon inspiration, elle vient du Maroc, parce que j'adore le Maroc et j'ai découvert le Maroc, j'avais 10 ans avec mes parents. Le Maroc des années 70, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, d'ailleurs. Les années 70-80, et avec des couleurs, avec des traditions très... très justement ancestral. Et j'ai commencé à écrire au Maroc.
D'accord.
Ouais.
Donc c'est là où vous vous êtes découvert aussi.
Mais sincèrement, je pense que toutes les odeurs, les bruits aussi, quand on a les fenêtres ouvertes et qu'on imagine des tas d'histoires. Donc, et l'Algérie, forcément, l'Algérie, c'est le pays où je suis née, et il y a un rapport à l'histoire de l'Algérie, déjà.
C'est des pays qui sont déjà dans le conflit pour situation des déserts. Donc ils vont être dans le conflit par rapport à vous. Parce qu'ils vont dire, c'est notre réalisatrice.
Oh, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Par exemple, quand je présente des films, c'est très rigolo. Parce que des fois, je suis réalisatrice marocaine. Mm-hmm. Des fois, je suis réalisatrice algérienne. Et puis, parfois, réalisatrice française. Ça arrive un peu moins, d'ailleurs. Bref. Mais non, l'Algérie, c'est un pays auquel je tiens parce qu'il y a, il y a une histoire liée à l'indépendance, déjà. D'accord. Mon père a fait la guerre d'indépendance, il était côté algérien, et donc il m'a transmis quelque chose de l'ordre de l'anticolonialisme, tout ça. Enfin, même s'il a été déçu après parce qu'il y a eu cette séparation entre l'Algérie et le Maroc, séparation liée au territoire, un territoire quand même qui a été bien dessiné par les colons, voilà.
Comme partout,
et c'est regrettable parce qu'on n'arrive toujours pas à le régler. Mais non, moi, c'est des pays qui m'ont apporté autant l'un que l'autre, et c'est difficile. Donc aujourd'hui, moi, je travaille en Algérie, je travaille au Maroc.
Est-ce que ce livre-là ne parle pas de ce petit conflit aussi, quand même?
Alors, il parle de conflit, mais il parle du conflit palestinien.
D'accord.
Israélo-palestinien. Mais en même temps, c'est vrai que comme je le dis pas forcément toujours, c'est transposable à tous les conflits entre n'importe quel autre pays.
Ce qu'on peut s'imaginer aussi par rapport à votre origine, et là, par rapport à la Palestine et à Israël, c'est vrai que c'est un conflit qui est un peu plus...
Ah, ben ça, c'est encore... c'est une tragédie, ça.
Alors, on va parler de l'écrivaine, mais aussi de la réalisatrice. Quelle est la différence entre les deux?
Je dirais que l'écriture, c'est soit avec soi. C'est-à-dire que l'écriture, c'est une introspection, c'est quelque chose... qui sort de nous, mais pas que. Pas que, parce que d'abord, en plus, quand j'ai écrit, j'ai pas écrit sur une feuille ou sur un cahier, mm-hmm. même si j'en ai toujours un au fond de mon sac, j'ai écrit sur une page Facebook.
Ah d'accord. Ah, j'avais pas vu ça.
Là, ça enlève le côté oui. hein, magique de l'écriture, là.
Non, mais on voit d'habitude, tout à l'heure, je vous ai parlé de Facebook, pourquoi il n'y avait pas Facebook dans le livre.
Mais par contre, je me suis servi comme vecteur, parce que c'était très facile. J'avais, en fait, dans mes voyages, j'avais toujours mon portable.
D'accord.
Et j'avais une connexion, ou mon ordinateur, et j'avais toujours... j'avais créé une page Facebook... Au départ, c'était pour partager d'anciens textes.
D'accord.
Mais, alors c'est rigolo parce que j'ai mis un premier texte, un deuxième texte ancien, et bien ça n'allait pas parce que c'était vraiment vieux. Mmh. Et un jour, j'avais ouvert la page, ça faisait déjà, je crois, 2 ans comme ça. Et puis un jour, donc ça c'était il y a deux ans, presque, j'ai commencé à écrire des petits bouts. Alors à chaque fois, c'était 5 lignes. Et c'était... ça peut être dans le train, ça peut être dans le bus, ça peut être même dehors. Mais j'avais toujours mon espèce de téléphone avec la connexion, avec la 4G. Mmh. Donc, et j'écrivais 3-4 lignes,
d'accord.
comme ça. Mais il fallait toujours qu'il y ait une chute. Mon truc, c'était ça. C'était d'accord. quel que soit... Il ne fallait pas que ça soit quelque chose comme ça...
Rester dans l'air.
Dans l'air, ouais. non. Mmh. Il fallait qu'il y ait, même si c'était 4 lignes, il fallait qu'il y ait à la fin une chute.
D'accord.
Et ça s'est construit comme ça, et c'est devenu quotidien, quasi. Des fois j'écrivais 2-3 textes, des fois un peu plus, des fois pas du tout, j'écrivais une semaine après, et c'est devenu un exercice pendant 2 ans. Quoi. Et d'ailleurs je continue encore.
Donc n'hésitez pas à visiter sa page pour pouvoir lire le prochain roman.
ouais, et justement c'est r.b.e, elle existe encore.
Encore, ouais. voilà.
Mais ces textes-là, je les ai enlevés, par contre. Les textes qui ont été édités n'y sont plus. Hein.
Alors, on revient sur la troisième partie de ce livre, qui parle un peu Belleville, après, avec les attentats, les manifestations, mm-hmm. etc. L'État français est touché par ce qu'on sait. Vous considérez en tant que Français dans ces actions, ou en tant qu'étrangère dans ces actions? Comment vous ressentez tous ces mini-mélos qu'il y a actuellement? Est-ce qu'on peut le retrouver déjà dans le livre?
Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, qui n'est pas très loin non plus, hein, c'est toujours le même quartier. Mmh. Déjà il y a eu ça, après il y a eu les attentats donc il n'y a pas longtemps là.
Bataclan.
Au Bataclan, mm-hmm. et puis dans les rues, hein, parce qu'il y a eu la rue Fontaine-au-Roi, il y a eu tout ce quartier. Hein. Moi, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je devais voyager. Je devais partir dans le désert, justement, avec mon fils, pour les vacances de Noël. Et c'est passé quelque chose, c'est que ça m'a encore plus ancrée dans le quartier. Je ne pouvais plus... C'est comme si c'était une espèce de lien encore plus fort, parce que... Donc, le lendemain des attentats, moi, j'étais déjà dans le métro, et les rues, c'est vrai qu'elles étaient... Je ne sais pas si vous vous souvenez...
Moins bondées.
Elles étaient vides, quoi. Ouais. La rue Oberkampf, là, c'était... C'était vraiment un silence de mort, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie aujourd'hui, parce qu'à Paris, on oublie très vite. Mais... ça a été quand même un choc. Moi, c'est la première fois. Enfin, j'ai pas assisté, j'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a connu ce que peut être se cacher, ce que peut être
survivre
dans un moment de guerre. Et quand on connaît ça, ça me rappelle ça. Ça me rappelle vraiment. On est entré en guerre. Alors contre qui, contre quoi? C'est des choses dont on parle, parce que moi qui, tu disais tout à l'heure, je m'engage sur des sujets comme ça, qui à l'époque, je me rappelle, quand on en parle ou aux gens, on ne nous écoute pas ou on ne veut pas entendre, parce que vraiment on voudrait plutôt effectivement aller boire un verre ou ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais on voit que ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça nous concerne aussi, et c'est en bas de chez nous, et que ça peut être un des nôtres qui peut être touché, parce que justement il y a des conflits dans le monde, et que ça se répercute sur nous.
D'accord.
Voilà.
Alors, ce livre sera ramené, a été ramené sur une pièce de théâtre que vous avez présentée il y a quelques semaines.
Alors, non, là, ce qu'on a présenté, c'est une première lecture avec mes comédiens. Parce que c'est vrai que présenter un livre, bon, en général, quand on présente un livre, c'est dans les librairies, avec des séances de dédicaces et tout, mais moi, ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
C'est pas pour être orgueilleuse ou prétentieuse, c'est que moi j'aime le partage comme pour un film ou comme un spectacle vivant en fait. Hein. Mm-hmm. Donc l'idée c'est qu'il y ait ce livre, mais qu'il y ait aussi un travail sur le texte avec les comédiens et qu'on puisse proposer au même moment et le livre et la pièce de théâtre et puis j'espère des images projetées et puis au final un film. Donc,
d'accord. Alors, je vous prends par surprise, mais je vais vous demander de lire quelques passages qui vous interpellent, qui vous touchent énormément.
Alors, j'ouvre au hasard, ou est-ce que je prends les textes qu'on a peut-être...
Au hasard, c'est comme vous le souhaitez.
Alors, là, ça va être un peu... Alors, je vais prendre un texte donc de la...
Alors, je vais prendre aussi mon livre que j'ai mis à côté.
Ouais, de la première partie. Comme ça, on voit à peu près ce que c'est que... Oui, c'est la première partie, là, c'était la deuxième. Ce que c'est que... Voilà. Alors, la route qui s'ouvrait devant elle... était faite de platanes qui rendaient l'atmosphère sombre, alors que la voix du chanteur alourdissait davantage la triste vérité qu'elle venait d'apprendre. Elle ne comprenait pas pourquoi tout accompagnait ce qu'elle était en train de franchir. Quand elle retrouva un peu de lumière, la voix s'était tue. Tout ce qu'elle abandonna n'avait plus de sens, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Les platanes de toutes les façons avaient fermé la route et il n'était plus question de se retourner. Elle passa le reste de son temps à vaincre cette douleur qu'il n'avait même pas soupçonnée. Il n'avait même pas songé qu'il risquait de lui ôter la vie. Il ne comprit pas à temps que le prix à payer allait être fort et qu'il ne pourrait plus reculer. Les platanes les avaient séparés à jamais. Il n'arrivait plus à la voir tellement les branches étaient épaisses. Il commença à souffrir de cette absence jusqu'à perdre sa beauté. Elle s'arrêta après suffisamment de distance. Quand les branches perdirent enfin leurs feuilles, ils purent se regarder de loin sans pouvoir oublier ces traîtres arbres.
Voilà. Voilà, court extrait de ce livre, Seul ancré dans le sol, édité à l'édition Sélacante. On va revenir, donc on parle tout à l'heure dans l'instant.
Il y a un petit bout de texte quand même que je voudrais, parce que c'est important. Mm-hmm. Parce qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas que. Elle vomissait tous les litres d'eau et de mixture, obligée d'ingurgiter pour un examen le lendemain matin. Elle se disait qu'elle ressemblait à ce dessin d'une femme en train de vomir sur le Front National. Elle se souviendrait des résultats des régionales. Elle se préoccupait de ce pays capable de se punir juste après les attentats. Le voilà qui pactise avec l'horreur.
Donc, on va revenir sur un des passages que vous venez de lire, sur la voix du chanteur. On a choisi un des chansons tout à l'heure que vous voulez nous présenter. De la musique Ganouman.
Alors, la musique Gnawa.
Gnawa.
Et sauf que là, ce que j'ai choisi, c'est pas de musique Gnawa, c'est Inariwen. C'est la musique du désert.
D'accord.
Mais voilà, c'est la musique.
On va écouter ça.
Ok.
Et puis on reviendra pour la troisième partie de cette interview, pour nous parler un peu d'un autre sujet, de ce livre. Et puis on revient dans quelques instants. Sur www.mouifm.com, sur le bouquet de leçons indiens, nous accueillons Madame Rema, qui nous parle de son livre « Seul ancré dans, dans le sol », un livre édité par l'édition Sélakanth. Dans cette troisième partie, on va parler un peu de rapport de la dame et l'Afrique, puisque vous êtes chez l'édition Sélakanth.
Oui.
Et vous êtes dans l'océan Indien. L'océan Indien, ça fait partie aussi de l'Afrique. Quel est le rapport avec l'Afrique?
Alors là.
Et, si je peux dire, les Comores. Est-ce qu'il a sa place, ce livre?
Les Comores?
Oui.
Alors, bon, en fait, c'est un hasard, ça. C'est un hasard des rencontres. Mais pour l'histoire, c'est que j'avais une amie quand j'étais à la fac, quand j'étais toute jeune étudiante. Meilleure amie était comorienne.
Elle s'appelait Comore?
Alors, moi, c'était rigolo parce que moi, je l'appelais, je la prononçais Moonhat. Je prononçais Moonhat, qui veut dire chapeau de lune en anglais. Mais elle s'appelait Moonhat. Voilà. Et peut-être qu'elle écoute, hein, je ne sais pas.
Elle écoute ça.
Voilà. Et puis, alors, l'Afrique a une place, en tout cas dans ma vie, très forte. Parce que le Maroc est quand même très, très ancré en Afrique. On l'oublie, hein.
Oui.
L'Algérie, on le sent moins dans le nord du pays, on le sent un peu plus quand on va dans le désert, parce que la population est noire, déjà. Et puis parce que ça se sent dans la musique, dans la culture, dans l'architecture, notamment où j'ai filmé à Timimoun, qui est dans le sud algérien, ou dans le Tarit. Ça fait très malien comme architecture. Là, je vais au mois de novembre, je vais à Dakhla. Dakhla, c'est dans le Sahara occidental, dans le Sahara marocain. Et je vais dans un forum qui s'appelle le Women Africa Forum.
D'accord.
Women's Africa Forum, qui accueille donc plein de femmes leaders africaines.
D'accord.
Voilà. Donc, y a vraiment l'Afrique, pour moi. C'est évident, quoi. On est africain, on est maghrébin, mais on n'est pas que maghrébin, on est africain et ça se sent dans la culture marocaine, ça se sent très très fort, quoi.
Avant d'éditer chez l'édition Sélakanth, vous connaissez un peu, je vous parle de l'océan Indien, mais vous connaissez un peu ces îles de l'océan Indien?
Alors j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les connaître, mais je ne connais pas du tout les Comores, je n'y ai jamais mis les pieds.
D'accord. Alors, quand je parle des Comores, il y a aussi la Réunion.
La Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice, oui. Je sais qu'il y a un très grand... Il y a un festival à l'île de la Réunion, mm-hmm. documentaire. J'avais...
Et vous puis, avez participé ?
Non, en fait, ce qui est bien avec le cinéma,
d'accord.
et ça c'est très très bien, c'est que quand on voyage avec nos films, on rencontre plein de gens de différents horizons encore. Et puis voilà, donc on est lié aux gens aussi par nos films. Voilà. Donc je connais le problème du lien entre Mayotte, par exemple, et les Comores, parce que j'avais un ami qui avait fait un film aussi là-dessus. Mm-hmm. Donc voilà, bon.
Avez-vous des projets dans cette région ?
Ouais.
Ah !
Mais je ne dirais pas encore.
Ah bon ? Même pas un petit bout pour nous concerné. Donc on verra ça. Alors, on revient sur le livre. Vous parlez d'un passage au désert. Vous parlez de désert tout à l'heure. Il y a des photos qu'on voit mm-hmm. à 40, où on mm-hmm. voit le désert.
Elles sont belles ces photos.
Oui.
Hein.
Et mm-hmm. ces femmes couvertes voilà. dans le désert, par exemple celle-là.
Ah, celle-là, devant la dune, là.
Voilà.
Ça ressemble aux Comores, non ? Avec drapé comme ça.
Oui, ben voilà, c'est ce que j'allais, ouais. dire. Ce que j'allais dire. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire
mettre avec ces photos ?
C'est quelques photos du désert. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi. Hein.
Il y en a quelques-unes. Hein.
Ouais, c'est vrai, ils sont là.
Oui, voilà.
Page 42.
Elles sont magnifiques. Oui, c'est un lieu où je vais régulièrement. Mm-hmm. J'espère que je continuerai à y aller. J'ai ancré le personnage dans le Maghreb, parce qu'il y a, voilà, quand même, il y a cette culture qui transparaît. Quand je parle de pays natal, etc., c'est de ça dont ça parle.
D'accord.
C'est des images un peu de flashback ou de choses qui lui tiennent à cœur. Et donc, voilà. Donc, je l'ai bien ancré quand même dans le monde du désert, parce que c'est un peu... c'est en lien avec le nomadisme, avec la déambulation, parce que c'est une femme qui bouge beaucoup. Hein,
oui,
dans
c'est
le...
voilà. C'est vrai.
Donc, et puis c'est des photos que je trouve très très jolies, quoi. Voilà.
Pour terminer, que direz-vous aux éditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas eu encore la chance de lire ce livre, mm-hmm. pour les amener à lire ce livre ?
Je leur dirais qu'ils loupent quelque chose.
Qu'il y a des belles photos, une
oui,
belle histoire.
Oui, qu'il y a un rythme poétique. Et que ça parle un peu de tout le monde, en fait, ça parle d'amour, mais aussi ça parle de notre société actuelle qui est un peu perdue avec toutes les difficultés qu'on connaît, parce que c'est vrai que bon, le monde va pas très très bien en ce moment, et que la poésie nous aide aussi à le supporter, quoi. La poésie c'est quand même bien pour se ressourcer, pour essayer de sortir un peu de sa tête et aussi pour éteindre un peu la télé aussi, quoi.
Alors, pour où on peut retrouver ce livre ?
On peut le trouver partout, d'accord. dans toutes les librairies, on peut le commander. Pour les Parisiens, il est à la librairie Libre Air, 111 rue de Ménilmontant. J'ai fait de la pub, puisque c'est là que j'ai présenté aussi mon livre.
D'autres projets pour ce livre, puisqu'il y a le théâtre, le cinéma,
voilà.
c'est pour quand ? On peut donner une date ou pas encore ?
Mais en fait, oui, moi je voudrais bien. Bon, alors là, on cherche des financements, donc parce qu'il faut quand même payer les comédiens, faut payer les musiciens, parce qu'il y a de la musique,
aussi.
Il y a des chants, il y a un travail sur l'image, donc là on est en pleine production dessus, on cherche des financements. Et puis moi j'aimerais beaucoup, oui, que ça se fasse l'année prochaine, ou enfin voilà, qu'on puisse. De toute façon, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs étapes, puisqu'au début on va être en résidence. Enfin, j'espère qu'on cherche une résidence de création dans un théâtre pour pouvoir répéter, pour pouvoir au fur et à mesure après faire le film, parce qu'il faut faire aussi les images qui sont projetées. Et donc c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure grossir et vraiment être fini au fur et à mesure. C'est pas un projet que je vois fini d'un coup, quoi.
D'accord.
Voilà.
Par étape. Alors, avant de terminer, on va vous donner votre page Facebook et celui de votre société, puisque vous avez une société aussi.
Oui, je suis productrice de films. C'est dur à dire, ça.
C'est des responsabilités.
J'ai pas un gros cigare, mais... Non, oui, non, c'est compliqué, hein, la production. Mais j'ai monté ma société de production, c'était mon association, en fait.
Tout à fait.
Et puis j'ai récupéré le catalogue et j'ai gardé le même nom, voilà. Parce que pour avoir des aides au CNC, il faut être une société, donc voilà, c'est devenu une société de production. Et comme j'aime bien ma liberté de création, donc je l'ai gardée, voilà.
D'accord.
Donc elle s'appelle Plein Cadre, et c'est pleincadre.com. Et pour le Facebook, c'est r.b.e.
Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, à acheter le livre. Moi, je vous le conseille.
Et le livre, ils peuvent le commander aussi. Sur le site de Célacante.
Tout à fait. Ouais. Et moi, je terminerai avec la lecture de ce passage.
Rien n'est grave dans ces instants pourvu qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Rien n'est important, non, parce que de toute façon, ce qu'il est ne se dira jamais. Rien n'est trop tard, puisqu'une fois que c'est fait, l'aventure continue. Rien n'est plus beau que ce que cette nuit t'a appris dans tes pas solitaires. Rien n'est plus commun qu'un abandon, parce que l'attente n'a pas de sens. Et rien n'est plus fort que des attentions dans les incertitudes de l'amour.
Voilà, un livre à voir, seul, ancré dans le sol, l'édition Célacante de Madame Rahima Elmadani. Voilà.
Ah, c'est simple.
Voilà. Et c'est à l'écoute sur www.mouifm.com et sur le bouquet de l'essai indien, Dunia Web. On est très heureux d'avoir accueilli notre réalisatrice, écrivaine et aussi productrice. Je vous invite à aller aussi voir les documentaires qu'elle a réalisés pour ceux et celles qui n'ont plus l'occasion.
D'ailleurs, on fera des projections avec le collectif, parce que j'ai oublié de parler de mon collectif. D'un collectif de femmes cinéastes qui s'appelle Film Fatal Paris.
Ah!
On est plusieurs réalisatrices, cinéastes, et on va organiser des projections régulièrement dans D'accord. Paris et Marseille. Voilà. Voilà.
Donc n'hésitez pas à découvrir ces livres et ces films. Et nous, on est très heureux de l'avoir acquis ici sur le bouquet de l'océan Indien. Et on espère que vous aimerez le livre comme nous l'avons aimé.
Merci, madame. Merci à vous.
Yeah.